Les chrétiens souffrent ici à cause des djihadistes de Daesh. Ils ont planté des graines. Il y a aujourd'hui des millions de Daesh en Irak.
Si les yézidis restent ici dans la région, c'est dangereux. Il n'y a pas de loi pour les protéger en Irak. Et s'ils partent, ce sera la fin de la religion yézidi dans ce pays.
C'est très important de rentrer chez nous. Mes ancêtres étaient ici, ça fait des centaines d'années. On a construit le village et on va revenir à notre village.
Cette semaine, les forces irakiennes ont repris Hawija au groupe État islamique. C'était le dernier centre urbain encore aux mains de l'organisation djihadiste dans le nord du pays. 3 ans après sa fulgurante ascension en Irak et en Syrie, l'État islamique voit son califat autoproclamé s'écrouler un peu plus chaque jour. En Irak, il ne contrôle plus qu'une bande de territoire désertique le long de la frontière avec la Syrie dans l'ouest du pays. Aujourd'hui se pose la question du retour de plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées par le conflit. 2 minorités particulièrement prises pour cible par Daesh se sont réfugiées dans le Kurdistan irakien. Les yézidis, communauté religieuse kurdophone, étaient 600 000 en Irak en 2014. Plusieurs milliers d'entre eux ont été massacrés, tandis que les femmes étaient enlevées pour devenir des esclaves sexuels des djihadistes. Les chrétiens, sommés de se convertir ou de mourir, ont eux aussi fui en masse. Ils ne sont guère plus de 400 000 aujourd'hui dans le pays. Chez ceux qui ont fait le choix de rentrer chez eux, l'inquiétude domine. La mosaïque confessionnelle qui formait l'Irak peut-elle encore exister? Quel avenir pour les communautés chrétiennes et yézidis en Irak? C'est un magazine signé Marie-Pierre Véraud. Nous sommes en direct de Bayeux à l'occasion de la 24e édition du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Merci au public qui est venu nous voir nombreux. Et l'invité de ce magazine est Pierre-Jean Luisard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient. Vous nous direz tout à l'heure comment vous voyez l'avenir de l'Irak. Nous allons d'abord écouter les reportages de Marie-Pierre Véraud dans le Kurdistan irakien. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Aurélie.
Vous avez rencontré des réfugiés accompagnés par l'association Elis Care.
Oui, notre voyage va commencer dans le camp de Darkar. C'est un camp aux confins nord du Kurdistan irakien, non loin de la frontière turque. Il y abrite quelques 8000 réfugiés yézidis, essentiellement des femmes et des enfants. Les hommes, eux, ont été soit massacrés, soit sont repartis sur leur terre du mont Sinjar pour assurer une présence yézidi. Et ce camp de Darkar, vous l'imaginez, abrite une population profondément traumatisée.
On part donc tout de suite à la rencontre de la communauté yézidi.
J'ai dessiné Daesh parce qu'ils ont tué tous les gens chez nous et ils ont enterré les cadavres dans l'usine du ciment. Mon cousin travaillait dans l'usine du ciment et il était décapité là-bas. Ils ont jeté sa tête dans le ciment et on a cherché son cadavre de l'usine. Quand on a fui sur la route, les djihadistes ils étaient juste à côté de nous, mais ils étaient occupés. Comme ça, on a eu de la chance de fuir. Et on était super bien accueillis ici au Kurdistan. On a reçu beaucoup d'aide.
Tu as eu très peur pendant la fuite?
J'avais vraiment peur, je tremblais. Et ma mère, elle me disait, regarde pas les cadavres.
Des images qui continuent de le hanter. Le sang, les têtes coupées, le chaos, le bruit des armes et la fureur des hommes en noir. Ils sont plusieurs centaines d'enfants yézidis traumatisés dans ce camp de Darkar. Des enfants dont Azad, lui-même yézidi, réfugié de Sinjar, a choisi de s'occuper.
C'est dur, surtout avec les enfants. Quand je travaille avec les enfants, je les donne des stages. Ils ne sont pas toujours là, surtout les enfants qui ont perdu leur famille, leur maman, leur père, leur frère, leur soeur. J'essaye avec tous les moyens de parler avec eux, de changer leur idée, de chanter, de danser. Mais dès que je tourne le dos, il n'est pas là l'enfant. Il va dans son monde. Je demande qu'est-ce que tu as. Et bah, tout de suite, ils me disent, je réfléchis à ma mère ou à ma soeur. Et même moi, je ne peux pas me tenir quand ils me disent ça. Parfois, je pleure avec eux. Le travail le plus dur, c'est avec les enfants qui ont eu un entraînement chez les djihadistes et qui ont eu le lavage de cerveau. Parce que même au niveau de la langue, ces gens-là, ils parlent l'arabe classique, comme ils parlent les djihadistes. Et on ne peut pas même s'entendre. Sinon, ils ont le lavage de cerveau et tout est haram pour eux.
Par exemple, je dis on va chanter, ils disent non, c'est haram, comment tu vas chanter? Je dis allez, on va jouer le football. Non, 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 ça ne se fait pas, c'est haram.
On les a appelés les lionceaux du califat, enrôlés dans l'armée de Daesh, petits enfants embrigadés dans les écoles de l'État islamique. Un jeune garçon s'approche. Fawaz n'est pas tombé entre leurs mains, mais il a vu ses parents et son petit frère se faire assassiner par les combattants de Daesh. Il a 13 ans et un regard d'une infinie tristesse.
Je viens de Ramoussi, un village à Sinjar. Daesh, ils ont attaqué. Avant d'arriver au village, vers 200 mètres, on est sortis. Nous sommes allés à la montagne où on a passé un jour là-bas. Après, on est allé à Duhok. Mes parents et un petit frère, ils étaient tués. Je suis parti avec deux sœurs et un frère. J'avais peur, j'étais paniqué. Je voyais les djihadistes, ils tiraient. Et moi, je tremblais, même je ne pouvais pas marcher.
Qu'est-ce que tu sais de Daesh? Qu'est-ce que tu connais d'eux?
Daesh, ils font tout ce qui est mauvais au nom de l'islam. Et ils décapitent les bébés.
Donc tu as réussi à t'enfuir?
Oui, j'ai eu de la chance de fuir.
On était quatre familles et il y en a qui étaient arrêtés de la part des djihadistes. Ils ont décapité les gens et ils ont pris les jeunes filles qui avaient 16 ans ou plus.
Plusieurs milliers de jeunes filles enlevées par Daesh, vendues dans des marchés aux esclaves, esclaves sexuels de nombreux maîtres. Après 3 ans d'enfer, Najma a pu échapper à leurs griffes. Ses mains se tordent alors qu'elle accepte de livrer son histoire.
Nous étions très nombreux à nous être réfugiés dans une maison du village. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Un convoi de 3 voitures de combattants de Daesh a surgi. Ils étaient 6 au total. Ils ont séparé les hommes, des femmes et des filles. Toutes les femmes ont été mises dans les véhicules. Ils nous faisaient peur. Ils ont demandé à mes sœurs, Nadia et Alia, de monter devant dans la voiture. Mais on était trop effrayés. Ils ont alors sorti un couteau, long comme une épée, pour nous faire peur et nous ont obligés à monter. La voiture a été jusqu'à Sinjar. Nous y sommes restés plusieurs heures, puis ils nous ont emmenés à Mossoul, où nous sommes arrivés vers 1h du matin. Là, ils nous ont emmenés dans une grande salle pour les mariages, la salle Galaxy. D'autres combattants de Daesh sont arrivés. Ils nous ont prises chacune en photo séparément et ils ont écrit nos noms. Nous, les 3 filles, on nous a séparées de notre mère et mises dans une autre salle. Ils ont aussi séparé mon petit frère de ma mère. Ils n'ont laissé avec elle que ma petite sœur de 8 ans. Nous étions terrorisées. La salle des mariages était pleine de filles. Nous étions vraiment très nombreuses. Nous y sommes restées 11 jours. Puis, ils ont fait venir 5 bus pour nous mettre dedans. On nous a emmenés dans une très grande maison à Mossoul, déjà remplie de filles. Ils nous hurlaient dessus, nous frappaient partout et nous humiliaient. Puis les officiers de Daesh sont arrivés. Ils appelaient les filles une par une. Ils nous posaient des questions sur notre âge, les études que nous avions faites. Et puis ils regardaient la beauté physique. Il y avait 3 petites salles, A, B et C. Pour les plus jolies, les moyennes et les moins jolies. Quand est arrivé mon tour, ils ont demandé mon nom et mon âge. J'ai un diplôme du secondaire, mais j'ai dit que je n'avais pas fait d'études pour ne pas être obligée de lire le Coran. Ils m'ont mise dans la salle A. Puis le juge et le grand chef sont arrivés. Parce que c'est un juge, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui fait les contrats de mariage. Le chef m'a regardée, je lui ai plu. Il a dit, viens, je te prends comme femme. Et là, je me suis mise à pleurer. C'était un Irakien. Il m'a prise, m'a menottée et m'a jetée dans sa voiture. De là, il m'a emmenée dans sa base militaire. Dans la pièce où il m'a enfermée, il y avait déjà 3 autres filles. Il les a fait sortir. Il m'a frappée, puis m'a violée. Au bout d'un mois, il est mort dans un combat. J'ai immédiatement été vendue à un autre commandant. Au total, j'ai été vendue 10 fois. Ils se comportaient comme des monstres. Il y a des femmes qui sont arrivées avec de petits bébés. Des bébés d'un mois, 2 mois, 3 maximum. Ils séparaient ces femmes de leurs petits enfants pour les violer. Nous, on était tout le temps enfermés dans une petite pièce toute noire. Même les fenêtres étaient peintes en noir. C'était pour ne pas avoir la notion du temps, ne pas savoir ce qui se passait dehors. Toute la journée, je pleurais.
Najma a plusieurs fois tenté de se suicider, de s'enfuir aussi, chaque fois reprise et violemment battue. Durant l'été 2017, enfin, les bombardements sur Mossoul et le chaos sur la base militaire où elle était recluse lui offrent une porte de sortie. Aujourd'hui, Najma a retrouvé sa communauté, mais elle ne rêve que d'exil. Plusieurs centaines de ses esclaves ont ainsi réussi à s'échapper ou ont été rachetées par leurs proches. Et si elles ont pu, comme Najma, revenir parmi les leurs, c'est grâce à une déclaration historique de leur guide spirituel, Baba Sher. Dès l'été 2014, il a prononcé les mots qui ont évité à ces jeunes femmes le bannissement, ou pire, à leur retour. Tout de blanc vêtu, longue barbe grise, le vieil homme nous reçoit dans sa maison. Son directeur de cabinet se fait son porte-parole.
Le 28
août 2014, les premières filles yézidis libérées sont arrivées ici. Le 6 septembre 2014, Baba Sher a fait une déclaration demandant au peuple yézidi d'accueillir ces jeunes filles comme des résistantes contre les djihadistes. Comme des jeunes filles qui ont gardé leur religion. Parce que personne ne peut obliger les yézidis à quitter leur religion. Ils seront toujours des yézidis. À leur arrivée, elles ont été accueillies comme des héroïnes. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui mariées avec des jeunes hommes yézidis. D'autres sont soignées, surtout au niveau psychologique.
Pourquoi est-ce qu'il a fait cette déclaration ?
Parce que Daesh répétait aux jeunes filles prisonnières, aux esclaves, vous ne pouvez pas fuir. Où voulez-vous aller? Quand vous rentrerez chez vous, vos parents vous tueront. Il voulait les empêcher de s'enfuir. C'était comme un lavage de cerveau. Il voulait persuader les filles qu'elles seraient tuées si elles rentreraient. Alors, cette déclaration, c'est pour aider les filles. C'est pour les encourager à fuir et à revenir. C'est pourquoi nous devions dire ces mots. Regardez cette photo. C'est une jeune fille yézidi qui vient d'être libérée il y a 20 jours. Je suis allé la chercher à côté de Mossoul. Et sur la route, pour arriver jusqu'ici, elle a fait la prière 2 fois. C'est pour vous dire le lavage de cerveau. Elle a fait la prière en arabe. Elle a à peine 15 ans. Cette fille aussi, elle était esclave chez les djihadistes. Elle porte le niqab. Elle ne croyait pas qu'il y avait des yézidis encore vivants sur Terre. Quand j'y suis allé, j'ai dit, je suis Ali Baba Sher. Elle m'a pris dans ses bras. Là, ce sont 2 filles chiites. Quand elles étaient avec les soldats, elles ont dit qu'elles étaient des yézidis. Car les filles yézidis sont violées et deviennent des esclaves sexuels. Mais si elles sont chiites, elles sont violées et tuées. C'est pire encore pour elles. C'est parce que nous, les yézidis, ils nous considèrent comme des apostats. Mais pour Daesh, les chiites, ce sont des gens qui ont quitté l'islam. C'est pire.
Alors je voulais vous faire réagir, Pierre-Jean Luisard, à cette affirmation d'Ali Babacher. Être chiite, aux yeux des combattants de l'État islamique, c'est pire qu'être yézidi ?
D'une certaine façon, oui, parce que, comme il a été dit, les chiites sont considérés dans les faits par l'État islamique comme des renégats, rafida. En arabe, c'est le mot qui est employé pour désigner les chiites. Et un apostat, on le tue. Il n'a aucun droit, on ne le réduit pas en esclavage, on le tue. Donc le sort des chiites, d'une certaine façon, a été bien pire que celui, si l'on peut dire, réservé aux yézidis.
Il y a eu énormément de victimes parmi les chiites.
Il y a eu un nombre incalculable, ça restera probablement dans l'histoire moderne l'un des plus grands massacres depuis des décennies, bien au-delà de l'État islamique. Les chiites ont suivi la violence d'un État sunnite sous Saddam Hussein et ensuite l'État islamique, et on peut chiffrer à des centaines de milliers les victimes civiles chiites.
Une question de Marie-Pierre Véraud.
Oui, pour ce qui concerne les yézidis, j'avais envie de vous faire réagir au témoignage de cette jeune fille, cette jeune esclave sexuelle de Daesh que l'on a entendue. Loin de ce que j'imaginais au moment de butins de guerre, de razzia, de viol, etc., cela semble être une entreprise assez froide, implacable, très codifiée de la part de Daesh. Les commandants choisissent, il y a des contrats de mariage. C'est assez terrible comme machine qui s'est mise en place.
Tout à fait. Effectivement, l'État islamique ou Daesh, comme on veut, lorsqu'on écoute ce reportage très poignant, on a l'impression qu'on a affaire à une bande de criminels sans foi ni loi. Or, criminels, ils le sont, mais ils ont une foi et ils ont une loi. Depuis 2014, année où Daesh a fait irruption sur la scène politique et militaire du Moyen-Orient, ce groupe a déclaré la guerre au monde entier, à la planète entière, aux États en place et à des communautés. Et la façon dont ces communautés ont été traitées différait suivant le statut qui leur était accordé par l'État islamique. Il a été dit que les chiites étaient considérés comme des apostats, les yézidis étaient considérés comme des gens ayant une foi qui ne s'apparentait pas à l'islam et qui ne pouvait pas être réformée. C'est la raison pour laquelle le fait d'être yézidi par rapport aux chiites semble donner davantage de droits, si l'on peut dire, le droit d'être esclave, et ce qui a été effectivement le cas de dizaines de milliers de yézidis qui se sont retrouvés, pour les femmes, esclaves sexuelles, mais pour les hommes, il faut le dire, c'était la mort.
Et ce qui fait froid aussi, c'est la méthode. On voit que c'est extrêmement structuré.
C'était effectivement extrêmement structuré. Il y a un traitement différent suivant le sexe, suivant l'âge. Les enfants ont été retirés à leurs parents et souvent endoctrinés, comme il a été dit, quand ils n'étaient pas purement et simplement utilisés comme de la chair à canon. Combien d'enfants yézidis ont été envoyés comme des kamikazes contre l'armée irakienne, par exemple, et comme bourreaux aussi. On a obligé des enfants yézidis à pratiquer des décapitations. Voilà, donc il y a eu toute une différenciation de traitement, tous aussi criminels les uns que les autres, mais qui montrait que l'État islamique se référait à des règles, à des principes, à un code, jusque dans la façon dont les mariages étaient pratiqués en fonction des grades au sein de l'État islamique.
Et avec une volonté de destruction de l'être humain assez incroyable.
Alors, ça, c'est notre vision, mais je dirais que la vision des membres de l'État islamique et des partisans de l'État islamique est pire, puisque ils avaient vraiment l'impression, et ils ont vraiment l'impression, qu'ils sont les seuls vrais êtres humains et que les autres ne méritent pas de vivre. Ça nous rappelle des souvenirs avec l'antisémitisme et la Shoah. Il n'y avait aucune pitié et aucune commisération possible envers une communauté yézidi qui, selon les djihadistes, pratique une religion d'adoration du diable.
Alors justement, parmi les victimes de Daesh, aucune pitié pour les yézidis, Marie-Pierre, et les chrétiens menacés par les combattants de Daesh, eux, ont souvent pu avoir la vie sauve.
Oui, mais c'est bien tout ce qu'ils ont pu conserver la plupart du temps. Je propose d'écouter les témoignages de chrétiens, et notamment tout de suite de partir dans un petit village arménien avresque, dans le nord du Kurdistan, où Teredik Tavikian a trouvé refuge.
Quand Daesh est arrivé à Mossoul, c'était le 10 juin 2014.
Il était minuit.
Ils
sont venus avec Mikrofonov, une espèce de
microphone. Sin, Chemenan, Mossoul.
Il ne restera pas un seul chrétien à Mossoul. Ceux qui resteront doivent se convertir. Soit ils paieront la jizya, qui est l'amende. Soit ils vont être assassinés. Chacun a commencé à préparer ses papiers, ses vêtements. Partout. Et là, à 6 heures du matin, on a pris la route. On est arrivé au niveau du lac. Au moment d'arriver au checkpoint où il y avait le lac, les Daesh nous ont séparés, hommes et femmes. Ils nous ont pris tout l'or qu'on avait sur nous.
Des papiers
d'identité, des papiers de propriété de maison, des titres de propriété, les voitures. Ils ont pris l'argent. Moi, je ne pouvais pas descendre ma mère de la voiture.
Et
là, ils l'ont tiré de force de la voiture. Nous sommes arrivés à Karakoch pendant 10 jours. Nous sommes
restés.
Mais au bout de 10 jours, Daesh est arrivé aussi à Karakoch.
Karakoch Medan.
Pareil, en pleine nuit, on a fui Karakoch. Et on est venu ici.
Ces récits de fuite sous les bombes et dans l'effroi, tous les racontent. Yézidis, mais aussi chrétiens chaldéens de la plaine de Ninive. Réfugié dans le camp chrétien d'Ankawa, dans les faubourgs d'Erbil, Sabir Marzena Daoud et son épouse Halida ont ouvert un petit kiosque de fortune où ils vendent boissons et bonbons. Ils ont tout perdu ce jour de l'été 2014, lorsqu'ils ont dû quitter Hamdamieh sous les tirs des djihadistes.
Après cet accident, le bombardement où il y avait des enfants tués, et là les gens ils ont commencé tous à quitter la ville et même les pères ils ont commencé à sonner les cloches des églises pour demander des gens de partir.
Alors, c'était un
meurtrier lancé de part des djihadistes et les enfants étaient devant la maison. Deux enfants étaient déchiquetés et une petite fille a reçu un éclat dans le corps. Elle était morte.
Vous saviez que les djihadistes s'approchaient de votre ville ?
Et dès le matin, on entendait les mortiers qui passaient. On n'avait pas peur au début, mais après cet accident, après la mort des enfants, c'est là où on a commencé à quitter la ville.
Vous n'aviez pas peur ? Pourquoi ? Parce que vous pensiez que les combattants arriveraient à repousser Daesh ?
Rassuré parce qu'il y avait les Peshmerga, c'était les combats entre les Peshmerga et les djihadistes. Mais quand ils ont reculé, quand il y avait les Peshmerga, c'était en sécurité. Mais le moment où ils ont reculé, c'est là où les gens ils sont sortis.
Lorsque vous êtes parti, vous avez eu le temps d'emporter quelques affaires.
Nous avons rien pris avec nous, juste un peu de bouffe pour la route. Et on pensait que ça sera fini dans quelques jours et on peut rentrer. Un mois avant, on est sorti, nous avons quitté la ville pour 3 jours et on est rentré. Et la dernière fois, on a pensé que c'était pareil, qu'on va rentrer très bientôt. Et on pensait que ça sera fini dans 3 jours, mais ça a duré 3 ans.
Ici, on arrive à Batnaya, un village chrétien abandonné, un village fantôme.
De Batnaya, bien plus au nord, non loin de Mossoul, il ne reste que ruines, gravats et murs calcinés. Batnaya porte les stigmates de l'occupation plus de 2 ans, puis de la guerre de libération.
On peut voir les maisons totalement détruites là.
Ah ouais, t'as des impacts d'obus, de balles et les bombes qui sont tombées.
Et il n'y a pas de vie, comme on remarque ici. Même il n'y a pas un chat qui passe, il n'y a pas un oiseau. C'est vraiment mort. Même les arbres, les champs, tout est mort. Ici, on peut lire les slogans de l'État islamique. L'État islamique restera. Il y a des noms de quelques djihadistes. Abu Amar al-Maslawi, par exemple.
C'est ceux qui occupaient les maisons ?
Apparemment, ils étaient dans cette maison. Ouais. Là, on s'approche de l'église du village, qui est là-bas, sur la colline.
Qui restait intacte, hein ?
curieusement. C'est presque le seul édifice qui est pas, soit pas effondré.
On descend voir l'église.
Là, il y a des slogans djihadistes sur les murs de l'église.
Oui, oui, ce sont que des slogans. Il y avait toutes les douilles, c'était rempli de douilles le sol, là. Là, ils l'ont nettoyé. Ça servait vraiment de lieu d'entraînement. Et vous allez voir, il y a pas mal d'inscriptions, même par des Allemands. Daesh.
Des djihadistes allemands.
Des djihadistes, oui.
Alors ça, c'est une inscription de Daesh.
Donc ici, ils ont écrit un slogan en vert, hein, toujours.
Oui. Bah, c'est un long slogan. C'est pour saluer Abu Bakr. Apparemment, c'est leur chef, al-Baghdadi. Et à la fin, ils disent l'État islamique, c'est la paix et la sécurité. Ici, on peut lire ce qui est écrit sur le mur. Ça, c'est officiel de la part de Daesh. C'est les bâtiments de l'État islamique. Et on peut voir la lettre N, c'est-à-dire Nasara, chrétien, en arabe classique. Alors ça, c'est devenu, ça dépend de l'État islamique.
C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés un bien chrétien.
Oui, ouais, bien sûr.
Là, on arpente ce village, hein, complètement abandonné. Chaises plastiques renversées, des amas de ferraille, des murs effondrés.
Des magasins détruits, ventilateurs fondus, le reste des paraboles sur les toits. Tout est cassé, là, les vitres, les portes des magasins.
Donc sur les murs, hein, on voit des impacts de balles. Les maisons effondrées, c'est les frappes de la coalition.
Oui, les maisons qui sont totalement détruites, comme cette maison, ça c'est une frappe aérienne de la coalition internationale.
Au détour d'une ruelle, quelques silhouettes. Isaac est venu avec sa femme et ses enfants voir ce qui restait de leur maison et commence à déblayer.
Ça, c'était un véhicule de Daesh. Et sur le véhicule, il y avait la mitrailleuse Doshka.
Et c'est une frappe de la coalition là, qui a détruit.
L'avion a frappé le véhicule des djihadistes. Et comme ça, la maison est incendiée. Ici, ce qui est écrit sur le mur, c'est l'État islamique était là. C'est les djihadistes qui ont écrit ça.
Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver votre maison aujourd'hui avec ces slogans sur les murs?
On est choqués de voir tout ça, voir les slogans écrits sur le mur de mon salon et un véhicule des djihadistes qui est là et la maison est bombardée, tout est brûlé. Nous, on a tout perdu, nos voitures, les meubles, toutes les affaires à la maison. On est parti juste avec nos vêtements.
Mais la famille est en sécurité, elle a pu être mise en sécurité.
Le deuxième jour, on est parti, c'était le 6 août, et c'était en sécurité encore. Il y avait les peshmerga sur la ligne de front et les gardes du village. Là, on essaye de nettoyer la maison pour revenir, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas l'eau ou l'électricité ici. Je travaille dans les champs du village, ici juste à côté, mais maintenant on ne peut pas travailler parce que les champs sont minés. Alors cette année, tous les habitants de la zone, ils sont des agriculteurs, et cette année, je ne peux pas travailler à cause des mines.
C'est important de revenir ici dans ce village.
Bien sûr, c'est très important de rentrer chez nous. Pourquoi on est toujours là? C'est pour rentrer à la maison. Et dès qu'il y aura ici électricité et l'eau, on revient tout de suite.
Mes ancêtres étaient ici, ça fait des centaines d'années.
Moi, mes grands-pères, tous, on a passé notre vie à Batnaya, on a construit le village et on va revenir à Batnaya, à notre village.
Ce sera très long, même après le déminage. À Batnaya, comme ailleurs, les djihadistes ont en effet creusé de nombreux tunnels qui fragilisent les édifices. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la ligne de front marquée par une large tranchée dans la plaine aride, Tel Eskof. Ce village chrétien n'a été que brièvement occupé, il est encore debout et les chrétiens commencent à revenir.
C'est trop dur de revenir chez toi et trouver que tout est pillé, la porte est cassée, il n'y a pas les meubles, il n'y a rien. Et les gens étaient très tristes, même il y a une femme qui est morte à cause de sa tristesse.
Et là, ils sont revenus avec leurs femmes et leurs enfants ou ils sont venus tout seuls ?
80%
on est rentrés avec nos familles, bien sûr, nos enfants, tous. Mais la majorité des villageois, ils sont partis à l'étranger où ils sont au Liban, Turquie, Jordanie. Et ils sont dans une mauvaise situation. Nous étions 1600 familles ici, et maintenant il reste 300 familles seulement. Et même les habitants qui se trouvent dans le village, ils ne sont pas tous de ce village, ils sont des autres villages détruits.
Et là, comment ça se passe pour les enfants? Il y a une école qui a rouvert ou...
Tous les trois, nous sommes des profs retraités. Et là, ce n'est pas encore la rentrée scolaire. On verra qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'était déjà les écoles ici dépendaient du gouvernement irakien. Et maintenant, c'est les Kurdes qui dominent. Et qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas.
Ils sont heureux d'être rentrés.
Notre destin est inconnu. On est content et pas content. Parce que notre destin est inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a le conflit entre Erbil et Bagdad et on ne sait pas ça. Il n'y a pas la route même pour aller à Mossoul ou aller ailleurs maintenant. Et le monsieur dit, c'est comme si on est dans une prison.
Comme dans une prison, dit ce monsieur. Cette prison, Marie-Pierre Véraud, comment est-ce qu'on peut en sortir?
C'est justement la question lancinante qui hante aujourd'hui ces communautés. Dès lors que l'État islamique perd ses fiefs un à un en Irak, est quasiment vaincu, cette question du retour se pose. Mais comment revenir quand sa maison a été minée, quand sa maison est détruite, qu'on n'a rien pour la reconstruire, quand sa maison est occupée? Comment revenir auprès de voisins qui parfois se sont mués en bourreaux? Comment revenir quand on n'a pas pu être protégé contre les terroristes de Daesh? Pour beaucoup, la confiance est rompue. C'est en tout cas le sentiment de Teredik Tavikian, l'arménienne, qui estime le retour à Mossoul impossible.
C'est impossible.
Pourquoi?
On a très peur. Cette semaine, nous avons un membre de notre communauté qui est rentré à Mossoul et on a essayé de le tuer. Il y a encore des terroristes là-bas, mais on a très peur. Beaucoup de gens nous demandent si nous allons rentrer chez nous, mais on a peur. Nous sommes que deux, ma maman et moi.
Mais si vous apprenez que Daesh est vraiment vaincu à quitter la ville, est-ce que vous retourneriez?
Ce n'est pas certain du tout. Je pense que nous ne sommes pas en sécurité et que nous serons toujours surveillés en tant que chrétiens.
Et vous pensez que les relations avec les autres habitants de Mossoul, les Arabes, ont pu changer aussi à cause de la guerre? Comment est-ce que ça se passait avant? Vous viviez en confiance les uns avec les autres?
Nos voisins étaient très bien. Mais quand Daesh venait, même eux ne pouvaient pas nous protéger, même s'ils essayaient, eux aussi se faisaient tuer. On vivait ensemble avec nos voisins qui étaient des Arabes. On avait très bonnes relations, mais Daesh est venu et nous a divisés.
Sans oublier ces nombreuses villes disputées, divisées entre différentes forces politiques et leurs groupes armés. C'est ce qu'Azad, le yézidi, a vu lorsqu'il est retourné à Sinjar.
S'il n'y a pas de sécurité, les gens ne seront pas capables de rentrer. Et si la situation continue comme ça, même 1% des Yézidis ne seront pas capables de rentrer chez eux. Moi, je ne veux pas rentrer chez moi et porter des armes toujours pour me protéger. Et comment je peux donner des cours aux enfants avec les armes, par exemple? Alors, si on rentre maintenant, on ne peut pas vivre normalement.
Pourtant, à Sinjar, il n'y a plus de Daesh, il n'y a plus de terroristes.
Et Daesh,
Aujourd'hui, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas Daesh à Sinjar. Mais il y a beaucoup de forces militaires, beaucoup de partis politiques. Il y a les PKK, il y a les Iraniens, les Syriens, les Irakiens. Et moi, quand je suis rentré pour voir la maison de mes parents, qui était bombardée, et on m'a posé des questions. Tu es qui? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, c'est chez moi, je veux voir ma maison. Ils ont dit, non, tu es espion, envoyé d'un côté. Et j'ai pleuré devant ces gens-là qui m'interrogeaient dans mon village à côté de chez moi.
Quelle serait la solution? Par quoi est-ce que cela passe?
Il y aura une solution quand ce conflit politique à Sinjar sera fini. Maintenant, il y a beaucoup de partis politiques. S'il y a un seul parti, ok, c'est possible de continuer la vie. Mais maintenant, il y a le conflit entre eux. Et moi, j'ai trouvé des étrangers, j'ai trouvé des Turcs, des Iraniens, des Syriens. Comment je vais m'entendre avec ces gens-là? Comment je vais vivre chez moi avec des étrangers qui sont venus, qui ont le pouvoir chez moi?
Où aller à présent? Le guide spirituel de la communauté, Baba Sher, ne sait plus quel conseil donner à son peuple.
De nombreux yézidis ont été massacrés, d'autres ont pu fuir, ont quitté l'Irak. Est-ce que vous redoutez que la religion yézidi ne disparaisse des terres d'Irak? Certains qui restent veulent aussi quitter ce pays.
C'est une question très difficile. Si les yézidis restent ici dans la région, c'est dangereux. Et s'ils partent en Europe, c'est dangereux. S'ils restent ici, il n'y a pas de loi pour les protéger en Irak. Et s'ils partent, ce sera la fin de la religion yézidi dans ce pays.
Quel est l'avenir du peuple yézidi ici, en Irak, dans le monde? Quel est son avenir?
En Orient, généralement, les yézidis sont en danger, que ce soit en Irak, en Syrie, en Arménie ou en Géorgie. En Syrie, l'identité yézidi a quasiment été effacée. Il n'existe quasiment plus. La plupart sont partis. Ici, en Irak, c'est pareil, car il n'y a pas de loi pour les protéger. Il n'y a pas de démocratie. Si le Kurdistan devient indépendant, cela sera peut-être bien pour nous, les yézidis, à condition que ce soit un pays libre et démocratique. Sinon, nous serons toujours en danger.
En danger, oublié, c'est la même lamentation qui monte du camp chrétien d'Ankawa. Leur maison détruite ou occupée, leur communauté dispersée, la peur dans toutes les têtes peut se voir revenir un jour.
Le village de Batnaya est détruit 80%. Et où on habitait notre maison est effondrée, vraiment écrasée. Et je ne pense pas que ce village va revivre ou va exister encore une fois. On a perdu notre pays, notre terrain, nous les chrétiens de Moussoul. On va où maintenant?
Vous voulez quitter l'Irak? Vous pensez que vous ne pouvez plus continuer votre vie ici en Irak?
C'est impossible de continuer à vivre ici, surtout pour nous les chrétiens de Moussoul. Nous sommes humiliés là, nous sommes sans pays et la situation en général en Irak n'est pas stable.
Pourquoi beaucoup de chrétiens sont rentrés ou continuent à rentrer ou commencent à rentrer?
Il
y a des gens qui rentrent, mais c'est leur décision personnelle. Et il n'y a pas de protection pour ces gens-là de la part du gouvernement ou de la part de la société internationale. Et ce sont les gens qui ont les moyens qui peuvent reconstruire chez eux qui rentrent. Mais ils sont en danger.
Et
aussi, la situation n'est pas stable aussi avec le conflit entre Erbil et Bagdad et le référendum.
Maintenant, la situation est instable, mais les terroristes de Daesh ont été chassés.
Les djihadistes, les Daesh, ils sont partis, mais la mentalité existe toujours à Moussoul. Et là, c'est trop dur pour nous, les habitants de Moussoul. Et moi, je ne peux pas aller vivre dans la plaine de Ninive ou ici dans les caravanes.
Vous pensez que quelque chose a changé irrémédiablement? Vous dites que la mentalité reste. Pourtant, avant, vous viviez en paix à Moussoul?
Là, que...
Depuis 2003, la chute de Saddam Hussein, depuis ce jour-là, la situation à Moussoul n'est pas stable. Et il y avait l'exode des chrétiens de Moussoul entre 2003 et 2014, 4 fois. Ils étaient obligés de quitter la ville et aller dans la plaine de Ninive.
un exode sans fin, l'histoire qui se répète pour ces minorités. Mon peuple est fatigué, nous disait la rescapée arménienne. Partout dans les camps, les chrétiens égrènent les villes d'où ils ont été chassés, chaque fois un peu plus loin, persécutés, encore une fois. Pour le père Emmanuel, la présence millénaire des chrétiens en Irak est en train de s'effacer.
Les chrétiens souffrent ici à cause de l'extrémisme islamiste, à cause des djihadistes de Daesh. Il y avait l'espoir avant la libération, mais après, les gens ont vu que leur maison avait été détruite ou incendiée. Alors même cet espoir s'est amenuisé aujourd'hui.
Certains sont rentrés, d'autres se demandent s'ils vont rentrer, d'autres enfin veulent partir. Que leur conseillez-vous ?
Les plus pauvres rentrent chez eux, ceux qui ont les moyens partent à l'étranger. Il y en a qui ont perdu l'espoir et d'autres encore qui veulent rester dans cette ville. Mais les chrétiens n'ont plus confiance dans ce pays.
Est-ce qu'ils pensent que les Peshmerga peuvent les protéger ?
Vous savez, c'est l'ensemble du pays qui n'est pas en sécurité. Ce n'est pas une question de telle ou telle force ou de Peshmerga. Il y a 3 ans, les Peshmerga ont fui. Ils ne pouvaient pas résister devant les terroristes de Daesh. Sans l'intervention de la communauté internationale, de l'Amérique et ses alliés, maintenant Daesh serait aussi à Erbil.
Les chrétiens Ancien-Orient ont subi plusieurs vagues d'attaques. La dernière a peut-être été la pire. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour les chrétiens en Irak ?
À mon avis, si les Irakiens ne changent pas de mentalité, s'il n'y a pas de respect de l'autre, alors il n'y a pas d'espoir. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus l'Irak. Et maintenant, on est en train de perdre l'Irak peu à peu. C'est ça la réalité.
Mais en Irak, on dit que Daesh a été vaincu.
Non, Daesh, pour moi, ce n'est pas celui qui porte les armes. C'est surtout la mentalité. Ils ont planté des graines. Il y a aujourd'hui des millions de Daesh en Irak. Aujourd'hui, même après le départ de Daesh. Et ça va arriver jusqu'en Occident. Maintenant, la Syrie souffre à cause de Daesh, le Yémen, la Turquie, partout dans le Moyen-Orient. Et ils vont arriver en Occident aussi.
Vous aviez imaginé qu'on en arriverait à cette situation ?
Disons qu'il y avait des indications. À partir de 2003, dans les mosquées, les imams disaient « N'achetez pas les maisons des chrétiens, vous les aurez bientôt ». Alors, tout était prévu, l'avenir sera pire ici en Irak à cause de la corruption et parce qu'on ne respecte pas l'autre. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous ne pouvons plus rentrer à Mossoul. Toutes les églises de Mossoul sont détruites. Toutes les maisons des chrétiens, des milliers de maisons sont occupées. Le contexte n'est pas plus facile. C'est toujours la même idéologie. Des groupes veulent s'accaparer les maisons. C'est ça, la réalité de l'Irak.
Quel avenir pour les communautés chrétiennes et yézidis en Irak ? Reportage signé Marie-Pierre Véraud. Le magazine de la rédaction est en direct de Bayeux pour le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre et le chercheur Pierre-Jean Luizard est en studio avec nous. Vous connaissez très bien l'Irak. Alors on vient d'entendre deux minorités, yézidis et chrétiens, qui craignent de disparaître. Est-ce que ces craintes sont pleinement justifiées, Pierre-Jean Luizard ?
Hélas, oui, elles sont justifiées. Ces communautés ne disparaîtront peut-être pas de la planète, mais leur avenir au Moyen-Orient est très hypothétique. De façon différente, les yézidis ont subi un assaut qu'il compare à une forme de génocide moderne. Et quant aux chrétiens, ils sont aujourd'hui, dans l'ensemble du Moyen-Orient, confrontés à des sociétés majoritairement musulmanes qui sont en plein réarmement identitaire et religieux, où ils se sentent de plus en plus étrangers. Mais je crois que votre reportage, d'ailleurs, le montrait assez bien. à travers toutes ces interviews, on voit que il y a un dilemme pour ces communautés qui regrettent, je l'ai entendu par exemple, le temps du régime de Saddam Hussein où elles étaient protégées. Et c'est là le grand problème. C'est là le grand problème, c'est que si l'on veut vivre en tant que groupe minoritaire avec des majorités, on ne peut pas être l'otage de régimes autoritaires qui mènent une guerre déclarée contre ces majorités. Et c'est là qu'on explique et qu'on voit clair sur le succès de l'État islamique. Comment un groupe comme l'État islamique a-t-il pu s'emparer du tiers de l'Irak sans tirer un seul coup de feu en 2014. Et il faut ne pas se cacher le fait qu'il a été accueilli en libérateur par la population de Mossoul, majoritairement arabe et sunnite. Il faut se poser la question pour quelles raisons et en tirer les leçons pour aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on ne protège pas des minorités contre les majorités, contre des voisins qui sont hostiles et qui ont eux aussi peut-être leur raison d'être hostiles.
En même temps, cette protection dont bénéficiaient, dont disent-elles bénéficier ces minorités, a donc disparu. Et il y a un problème de confiance qui se pose, si elles veulent retourner dans leur cité, entre elles et les Arabes sunnites qui ont collaboré ou non avec l'État islamique, les chiites, les autres communautés. Comment retrouver cette confiance ?
Tout à fait, il y a un problème de confiance, mais je me souviens qu'à l'époque du régime de Saddam Hussein, les chrétiens affectaient de dire qu'ils se sentaient protégés, de même qu'ils se disent protégés par le régime de Bachar el-Assad, dont on voit comment il agit contre sa population à Alep et ailleurs, sa population arabe sunnite. C'est bien là le problème, ce sont des groupes sans défense, minoritaires, qui doivent prendre en compte le fait qu'ils ne peuvent pas vivre en paix sous la protection d'un régime qui mène la guerre à la majorité de la société. C'est le cas en Irak, puisque l'État islamique, on l'a vu dans une maison qu'il avait occupée, il disait « l'État islamique, c'est la paix et la sécurité ». C'était une réalité pour une majorité de la population de Mossoul qui vivait sous la coupe d'un gouvernement irakien majoritairement chiite qui se conduisait à Mossoul comme s'il était en terre étrangère. Sinon, on ne comprend pas pourquoi la population de Mossoul a accueilli l'État islamique avec soulagement. Ça a été la fin du règne de la terreur pour une grande partie de cette population. Et les chrétiens sont les otages dans cette lutte entre ces deux protagonistes.
Certains disaient toutefois, ils les ont accueillis comme des libérateurs, mais très vite, ils ont compris qu'eux-mêmes étaient les victimes de Daesh. Ils ont vite regretté, ces sunnites de Mossoul, de les avoir accueillis ainsi.
Ça n'a pas été le cas au lendemain de la conquête de Mossoul par l'État islamique, où là, au contraire, la population a retrouvé une sécurité, a retrouvé des choses qu'elle n'avait pas connues depuis des années, c'est-à-dire la fin de la corruption, avec des prix de produits alimentaires de première nécessité divisés parfois par 3 ou par 4, parce que le gouverneur et la mafia qui dirigeait Mossoul à l'époque où le gouvernement de Bagdad avait la main sur Mossoul faisait flamber les prix. Donc on est en guerre. Il y a une propagande qui est normale, qui diabolise l'ennemi, mais il faut aussi essayer de comprendre les raisons du succès de cet ennemi et les raisons qui font qu'aujourd'hui, comme il a été dit, Daesh est peut-être vaincu militairement, mais le califat ne disparaîtra pas parce que les graines ont été semées et la responsabilité, il me semble, n'est pas à chercher dans tel ou tel interlocuteur, dans telle ou telle communauté. Il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, mais dans des institutions et notamment les États en place qui sont responsables directement de l'exclusion depuis 1920, depuis qu'ils ont été créés sous le régime des mandats, de l'exclusion des majorités, qu'il s'agisse des Kurdes en Irak et des chiites. Et depuis 2003, on sait qu'il y a eu un renversement de la donne qui fait que les exclus de l'ancien système, Kurdes et chiites, excluent à leur tour ceux qui avaient eu le pouvoir pendant près d'un siècle. Mais on ne gouverne pas pacifiquement avec une société qui exclut et qui mène une guerre dont le gouvernement et l'État est un protagoniste dans une guerre communautaire à la libanaise, finalement.
Et donc vous êtes d'accord avec cette phrase qu'on a entendue, il y a des millions de Daesh en Irak?
La population de Mossoul a résisté au bombardement pendant des mois de la coalition. Pour quelle raison ? On ne comprend pas s'il n'y avait pas eu un soutien minimum de cette population et s'il n'y avait pas eu le fait que, peut-être contrairement à la Syrie, l'immense majorité des combattants de Daesh sont irakiens, sont des gens de Mossoul. C'est ce qu'on appelle la population civile. Elle s'est défendue contre quoi ? Parce que son cauchemar, c'est ce qui s'est passé justement, c'est-à-dire une coalition internationale qui a bombardé sans discrimination. Je rappelle que selon les aveux de l'ex-ministre des Affaires étrangères irakien, Hoshi Arzibari, la coalition internationale a fait plus de 40 000 morts, victimes civiles dans la population de Mossoul. Alors peut-être que c'était des partisans de l'État islamique, mais cette lutte contre l'État islamique s'est transformée en une lutte contre une communauté, et aujourd'hui, on le voit, le cauchemar de la population de Mossoul a pris forme, puisque l'armée irakienne, majoritairement chiite, est revenue sur place, aidée par des milices chiites dont on sait qu'elles sont assoiffées de vengeance.
Et donc aujourd'hui, pardon, l'État irakien n'est pas perçu comme un État protecteur ?
L'État irakien est perçu comme un État prédateur, un État ennemi dont il faut se protéger. Et ce qui se passe aujourd'hui montre justement l'échec des politiques internationales en Irak, dans la mesure où cela permet à Daesh de se positionner, de s'imposer comme le protecteur d'une population qui n'a rien à attendre d'un État qui ne contrôle même pas ses troupes. On l'a vu à chaque ville arabe sunnite reprise, Tikrit, Fallujah, Mossoul, il y a eu des exactions de la part de milices devant des soldats irakiens qui ne bougeaient pas le petit doigt pour les en empêcher. Aujourd'hui, l'Irak est donné à une coalition à la fois internationale et régionale. On l'a vu, comme il a été dit, des milices iraniennes, il y a des milices chiites afghanes. C'est devenu un terrain de lutte international dans un conflit global entre sunnites et chiites, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir et non pas dans celui d'une diabolisation qui ne permet pas de comprendre pourquoi l'ennemi a eu autant d'atouts.
Mais justement, alors comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir en Irak ? Est-ce que le pays peut se reconstruire sur des bases autres que confessionnelles ? Comment faire pièce à l'influence de ces pays étrangers, l'Iran, la Turquie ?
Alors, je crois qu'une solution qui fait froid dans le dos à toutes les diplomaties occidentales, ce serait de prendre en compte le fait que les États, notamment en Irak et en Syrie, ne sont pas réformables. Ce sont des États confessionnels qui ne peuvent pas être réformés dans la mesure où ils sont les otages de groupes régionaux, claniques, tribaux, qui s'arrangent toujours pour transformer leur monopole du pouvoir en lutte confessionnelle. Ce qu'il aurait fallu, c'est coupler une action militaire aérienne avec une action au sol, mais surtout sans déléguer à des forces au sol qui sont partie prenante du conflit. Là, on a délégué au sol parce qu'on ne voulait pas envoyer de soldats sur place. On a délégué au sol à l'armée irakienne, aux milices chiites et aux Kurdes qui sont partie du conflit. Et comment s'étonner après que la population de Mossoul craigne le retour d'autorités qui ne sont pas des autorités légitimes à leurs yeux, et ceci à juste titre.
Donc si je vous demande en 30 secondes si vous êtes pessimiste pour l'Irak demain ?
Tant que les institutions en place et la visite de Haïdar al-Abadi, le premier ministre irakien à Paris ces jours-ci, l'a démontré, tant qu'il n'y aura pas une révision globale de la situation au Moyen-Orient qui prenne en compte la faillite des États et le fait que ces États ont été fondés à partir d'un refus majoritaire des sociétés, qu'ils ont été en guerre permanente depuis 1920, surtout en Irak, contre leurs sociétés. Tant qu'il n'y aura pas cette réflexion, on peut craindre, hélas, que le conflit ne perdure et que l'Irak ne demeure une terre de prédilection pour l'État islamique ou son successeur.
Merci Pierre-Jean Luisard. Je cite le titre de l'un de vos derniers livres, Le piège Daesh, l'État islamique ou le retour de l'histoire, paru en 2015 aux éditions La Découverte. C'était le magazine de la rédaction. Quel avenir pour les communautés chrétiennes et yézidis en Irak, avec des reportages de Marie-Pierre Véraud, Annie Bro à la réalisation. Merci aussi à Jean-Marie Porcher, Philippe Etienne, Benjamin Thuot, Nicolas Estorge à Bayeux et Jean Frédérix à Paris. Vous pouvez retrouver ce magazine sur franceculture.fr avec notamment les photos prises par Marie-Pierre Véraud dans le Kurdistan irakien.